cette semaine, c'est Hakim, le fils du forgeron, qui est venu nous chercher.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards comme ils sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Salut Gabriel.
Salut Vicky.
Alors on était où aujourd'hui?
On était au musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac, qui est à côté de la Tour Eiffel, qui est l'ancien musée des collections d'art d'Afrique et d'Océanie, donc aujourd'hui ce qu'on appelle les collections d'art premier, et qui organise une exposition qui s'appelle « Frapper le fer, l'art des forgerons africains ». Alors moi j'avais très envie de voir cette exposition depuis quelques mois parce que j'avais vu l'affiche dans le métro et que je la trouvais très belle.
Ah ouais, juste comme ça l'affiche.
Bah c'est bien, moi je trouve que ça marche, quand la com marche, c'est plutôt bien. Et on se retrouve devant une exposition qui n'est pas du tout seulement technique. On commence avec un point technique au tout début pour vous dire un peu comment fonctionne la forge de fer en Afrique. Et ensuite, par contre, ça va permettre vraiment de brasser des thèmes beaucoup plus larges, allant de l'histoire, les origines du travail du fer, la mythologie et la cosmogonie dans plusieurs pays africains, ou même les systèmes politiques qui vont découler de ce travail du fer. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Plutôt intéressant, mais beaucoup trop d'informations.
On va en reparler.
On en reparle. Alors, point de vue muséographique. Ça démarre avec cette vidéo. Alors c'est... on filme, on va dire, la surface d'une planète.
La surface du soleil. C'est la surface du soleil en éruption.
Ouais.
Et ensuite des globules rouges. Et vous avez ça en alternance, en très grand. C'est complètement hypnotisant. Et encore une fois un peu gerbatif, comme c'était déjà le cas avec d'autres vidéos dans d'autres expositions.
Oui.
Et surtout que ça n'apporte rien du tout. Donc vous êtes accueillis par ça, c'est même un peu de côté, mais c'est quand même gigantesque, donc on sait pas trop pourquoi c'est là.
Non.
Et en fait, ça se rapporte aux premières phrases du texte d'introduction qui dit « Ah oui, mais le fer, c'est contenu dans le soleil et dans nos globules, dans notre sang, c'est ça qui donne la couleur à nos globules rouges. »
Voilà.
Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment pour illustrer cette espèce de phrase d'accroche, donc c'est parfaitement inutile.
Et du coup, après, on s'est rendu compte que l'exposition était une exposition qui venait des États-Unis. Et du coup, on s'est dit que ça faisait vraiment chaud à l'américaine, cette vidéo, et donc on comprenait mieux pourquoi elle était là. Après, d'un point de vue muséographique pur, c'était bien éclairé. Enfin, c'est toujours... De toute façon, le musée du Quai Branly fait toujours la même chose. Hein. Il fait très sombre et il y a des spots sur chaque œuvre. Donc, à moins de mal placer le spot, il y a peu de chances que ce soit raté.
Oui, mais ce qui fait que cette exposition a le travers qu'a le musée du Quai Branly en général, c'est que tout est dans la pénombre et que vous en sortez avec la tête comme un ballon.
C'est vrai.
C'est très beau, c'est très esthétisant, les œuvres sont très très bien mises en valeur, mais tout dans la pénombre, c'est pas terrible.
Après les textes, les cartels sont très bien.
Oui.
Tous très lisibles. Par contre, les textes ne sont pas distingués. Il y a des textes principaux et des petites sous-parties, on va dire, mais il n'y a pas une forte distinction, je trouve, entre chaque.
Oui, mais j'ai trouvé que les textes, les plus grands textes, quand vous les lisez, il faut y prêter pas mal d'attention, parce que bon, c'est pas un sujet qu'on connaît souvent. Alors si vous n'êtes pas familier de l'art africain, et particulièrement de la métallurgie africaine, on aime bien voir ces textes-là pour nous expliquer un peu de quoi ils leur tournent, mais une fois que vous les avez lus, vous pouvez vous épargner de lire chaque petit cartel sur chaque œuvre si vous n'avez pas envie. Et simplement de profiter des œuvres pour leur valeur esthétique.
Oui, mais à l'inverse, tu ne peux pas lire les cartels sans avoir lu les panneaux explicatifs.
Sinon tu ne comprends pas ce qu'elles font là.
Tu ne comprends rien du tout. Et il faut absolument, si tu veux lire les cartels et comprendre... Parce que ce qui est bien, c'est quand même qu'ils expliquent en général tout ce qui est représenté sur les œuvres, qu'ils expliquent leur signification, donc ça c'est bien. Mais si on n'a pas lu le texte explicatif avant... On comprend pas ce que c'est, on comprend pas pourquoi c'est là.
De toute façon, de manière générale, c'est un contenu assez complexe, avec des œuvres qu'on n'est pas habitué à voir. Vous allez beaucoup lire.
C'est un contenu
très... Si on veut pas être perdu, mais si vous lisez, vraiment, en tout cas, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai trouvé ça très instructif, et les textes ne vous perdent pas.
Non, mais ils nous perdent pas, mais...
Mais il faut être attentif.
Voilà, c'est épuisant. Au bout d'un moment, on est épuisé de lire. Mais après, je trouve que le début est assez, enfin pas compliqué, mais il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup d'idées, et la fin de l'expo est plus légère, plus simple à comprendre. Parce que la fin de l'expo, on finit sur les dots, en fait, pendant les mariages, et la musique.
Le système monétaire, ce genre de choses, et bon, c'est pas...
C'est des choses plus simples, parce que le début de l'expo, c'est plutôt tout ce qui est divinité,
Oui, puis même avant ça, technique de forge du fer, avec des mots très techniques, justement, tout un vocabulaire nouveau qui n'est pas forcément évident. Et justement, j'ai trouvé que le problème dans cette salle d'introduction, c'est que vous avez, en vous accueillant, vous avez une vidéo d'une de cette introduction en langue des signes française, doublée avec une voix. Donc probablement pour les personnes non seulement malentendantes, mais aussi malvoyantes, avec la voix qui explique un petit peu le parcours de toute l'exposition à venir. Le problème, c'est que comme cette vidéo est forte, moi j'ai trouvé ça très compliqué de me concentrer sur les textes, alors que j'avais vraiment besoin de les lire en me concentrant. Je devais m'y prendre à plusieurs reprises pour comprendre ce que je lisais. Et voilà, c'est vraiment bien le moment où il ne faut pas être perdu pour la suite des événements. Je ne sais pas trop ce que toi t'en as pensé.
Oui, je suis un peu d'accord aussi. Mais moi, c'est plus parce qu'il y avait quelqu'un qui criait dans mon oreille à côté.
Bon, ça, on ne peut pas vous promettre qu'il n'y aura pas des
voilà. Mais non. Mais après, je trouve que quand même la première partie est assez didactique, même sans les cartels. Il y a quand même la vidéo qui explique comment en fait est fondu le fer et c'est forgé. Donc... C'est vrai.
Et pour en revenir à cette vidéo en langue des signes française et... possiblement, on a supposé, pour les personnes malvoyantes, par la suite de l'exposition, dans chaque salle, vous avez aussi des fiches en braille. Donc ça, c'est vrai que le Quai Branly se fait un point d'honneur à être inclusif, et bon, en tout cas...
En braille et en caractère, élargi, oui. Pour les malvoyants.
Vous aurez plusieurs vidéos au fil de l'exposition, et même si j'ai encore râlé parce que je me disais « Ah oui, mais bon, ça fait du bruit, j'arrive pas à me concentrer sur les cartels », en réalité, ces vidéos, elles sont bien faites. Elles sont présentées par Tom Joyce, qui est le commissaire de l'exposition, qui est un artiste. À chaque fois, il prend le temps de vraiment montrer un des objets qui est exposé juste à côté, en détail, de bien l'expliquer. Et nous, on peut se poser aussi un peu devant. Il y a toujours des banquettes devant les vidéos. Ça permet aussi un peu de vous poser, de profiter de l'objet, de vraiment bien pouvoir le regarder. Et après, vous allez le voir en vrai à côté, vous le regardez bien en détail. C'est plutôt agréable et toujours instructif.
Et alors, encore une chose. Alors, je ne sais pas si toi, ça t'a choqué ou pas. Alors, peut-être, c'est probablement des questions budgétaires. Mais j'étais un peu choquée, c'est un grand mot. J'ai un peu tiqué sur les toiles tendues qui recevaient les textes.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, c'est des grandes toiles en plastique.
Les kakémonos.
Ouais, voilà, ça s'appelle des kakémonos dans le jargon. Et donc, c'est des grandes toiles tendues. Bon, là, elles étaient accrochées au plafond et au sol. Et du coup, on colle les textes dessus. C'est pour gagner, en fait, c'est pour créer des supports qu'on n'a pas forcément dans l'espace d'exposition. Et en fait, j'ai trouvé que ça fait un peu de chipouille. Hein. Voilà, j'ai trouvé que ça m'a un peu fatigué, ouais. Mais voilà, sinon, non, c'était
beau. C'était une belle exposition.
Ouais. Mais il y a trop d'infos.
J'ai trouvé que les œuvres étaient vraiment très belles. Je connais mal l'art africain. L'art africain, c'est quand même quelque chose de très très vaste. Mais là, je trouvais que tout était vraiment très beau. Encore une fois, moi, c'était vraiment bien mis en valeur, bien éclairé. Mais il y avait vraiment des choses magnifiques. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez même lire le texte d'introduction de la salle et après profiter des œuvres, même sans savoir. C'est toujours mieux de savoir en plus quelles étaient leurs significations, leur usage, mais vous pouvez même en profiter sans parce que c'est vraiment des choses très très agréables à l'œil.
Oui, et puis ils ont quand même essayé en général dans chaque partie de classer les œuvres plus ou moins par ethnie. Ils ont essayé à chaque fois de faire des parties où ils expliquent que dans telle ethnie le fer il l'utilisait pour ça, dans telle ethnie il l'utilisait pour ça. Du coup, il y a beaucoup d'infos, mais on va dire que au niveau des ethnies, c'est à peu près clair où on est, ce qui se passe. Après, moi je trouve que c'est toutes ces ethnies et toutes ces significations, ça entraîne beaucoup de parties, beaucoup de sous-parties.
C'est vrai.
Et du coup, alors, c'est sûr, on voit plein d'œuvres, mais qui n'ont pas forcément de lien. Oui. Alors, ils ont réussi à faire des grosses parties, comme le fer et le pouvoir, mais du coup, après, ça nous renvoie à plein d'idées très différentes et à plein d'objets avec des utilisations, des significations différentes.
C'est un petit peu l'effet de l'exposition Chaussures au MAD, j'ai trouvé, où on a encore une fois plein de choses intéressantes qu'on découvre. C'est assez sympa, vous allez apprendre plein de choses, mais c'est pas un discours vraiment suivi et cohérent.
Oui, voilà.
Forcément, au bout d'un moment, ça s'éparpille un peu et vous glanez des choses qui vous intéressent à droite à gauche et il y a des choses qui vous intéresseront plus que d'autres.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais après, oui, comme toi, je suis d'accord que les œuvres sont très belles. Et qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Et puis c'est pas fait de façon désagréable et pompeuse, quoi. C'est vraiment...
Non, c'est vrai.
Du coup, voilà, c'était assez bien.
Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que on est un peu... On sent qu'on est dans l'ère post-débat sur la provenance des œuvres d'art africain et d'Océanie, et post-débat sur la restitution des œuvres. Ça, si vous n'avez pas suivi... L'an dernier, Emmanuel Macron a promis au Bénin, notamment, que seraient restituées plusieurs œuvres qui sont dans les collections nationales françaises, des œuvres qui auraient été spoliées par les Français il y a plusieurs décennies, voire même plus d'un siècle.
Bah, autant de la colonisation. Donc.
Et parfois, c'est vrai que là, c'est précisé au début du cartel simplement comment a été acquis telle ou telle œuvre. Genre, ah bah ceci, c'est une œuvre qui a été achetée dans les années 70 à ce pays-là, ou alors, au contraire, cette œuvre-là, elle est rentrée dans les collections françaises parce qu'elle avait été pillée par les armées françaises qui ont battu le roi du Dahomey, des choses comme ça. Donc on a un peu plus d'informations, c'est pas juste des œuvres qui sont apparues magiquement chez nous, et c'est plutôt agréable, même sans évoquer, je sais pas, des problématiques, d'excuses, quoi que ce soit, mais là c'est juste de se dire, bah oui, en plus on a des informations en plus, de se dire, mais d'où venaient ces œuvres, comment est-ce qu'elles sont arrivées chez nous. Et dans un des panneaux sur les armes d'apparat, qui ne sont pas des vraies armes, qui ont des armes qui ont été émoussées, qui sont plus fines, qui sont trop fragiles pour être utilisées en véritable arme, parce qu'elles ont seulement un statut de symbole social, et bien à la fin, ils précisent que parfois, on n'a pas toutes les informations nécessaires pour savoir vraiment à qui elles avaient appartenu, et bon voilà, donc parfois les cartels sont un peu lacunaires. Et rien que ça, c'est un peu d'avouer aussi que bah, on n'a pas toujours la science infuse, même en tant que commissaire d'exposition, même en tant que conservateur. J'ai trouvé ça bien de le dire.
Oui, c'est bien de rappeler qu'il y a toujours des débats sur ces œuvres-là. Bon alors, du coup, est-ce que tu as une œuvre préférée ?
Il y a plein de choses que j'ai trouvées très belles, mais il y a particulièrement un objet que j'ai trouvé très intéressant. C'est quelque chose qui s'appelle une planche de mémoire. Ça vient de la population Luba, donc de la République démocratique du Congo. Ça datait de la fin du 19e siècle. Et c'est une planche en bois qui a une forme grosso modo rectangulaire, mais un petit peu resserrée en son milieu, vaguement comme un sablier. Et au-dessus, vous avez des renforts de fer, des sortes de gros rivets de fer, et plein de petites perles de rocaille, des petites perles de verre colorées. Et en fait, cette planche de mémoire, ça sert à ce que la personne qui la tient en main, en la touchant, ça peut l'aider à se remémorer différentes parties de grandes épopées traditionnelles. C'est utilisé par la société Mbundaye et c'est censé faciliter la mémoire de ces histoires-là. Et je trouvais que c'était vraiment cool. Voilà. Et toi, Vicky, qu'est-ce qui a attiré ton regard ?
Alors moi, c'est une figure protectrice, une kishi, ça s'appelle. Donc c'est dans la première salle, parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans la première salle, c'est qu'il nous expliquait que dans toute la civilisation africaine, le fait de frapper le fer et de créer des objets en frappant le fer, en fait, c'était vraiment une action procréatrice. À la fois, donc, les hommes qui frappent, et en fait, le but, c'est qu'il y ait aussi un élément féminin dans chacune des œuvres pour qu'il y ait cette idée de procréation. Et du coup, eh ben, quasiment systématiquement, sur les œuvres en fer, il y a un symbole féminin. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, il y avait donc dans cette première salle, pour illustrer cette idée, il y avait donc cette figure protectrice. Donc, c'est une sculpture qui date de la deuxième moitié du 19e. Et en fait, elle a été réalisée au Congo par l'ethnie des Songye. C'est une petite statuette avec les cheveux hérissés. Puis, elle a des yeux. En fait, c'est des coquillages. C'est une divinité qui est tellement puissante qu'en fait, si on la touche, elle peut nous brûler. Il y a une photo à côté qui nous montre comment on est censé la manipuler. Et en fait, c'est une prêtresse qui la manipule avec en fait des extensions en fer qui ont été ajoutées sur les côtés de la statue. Donc c'est deux tiges en fer. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que les tiges en fer soient restées et que du coup, on ait vraiment l'idée de la fonction de cette statue qu'on ne peut pas la manipuler, puis c'est encore mieux qu'ils aient trouvé un cliché pour illustrer son utilisation.
Les infos pratiques,
comment est-ce qu'on y va ?
Ouais, on y va avec la neuf, le RERC et vos petites jambes.
C'est ça. Donc l'expo, elle dure jusqu'au 29 mars. Les horaires d'ouverture, donc c'est fermé le lundi, ouvert donc du mardi au dimanche de 10h30 à 19h, avec une nocturne le jeudi jusqu'à 22h. Plein tarif, 12 euros, tarif réduit 9 euros, gratuit pour les moins de 26 ans résidant en Union européenne.
Alors, est-ce qu'on y va? Moi, je dirais oui, parce que l'art africain, ça peut paraître assez hermétique, je pense, pour plein de gens qui ne connaissent pas. Et là, bah, ça permet vraiment de voir plein de jolies choses et d'apprendre plein de choses sur ce thème de la fonte du fer.
Et puis, c'est assez détaillé sans être
indigeste. Par contre, n'y allez pas avec des enfants, parce que c'est vraiment, je pense, c'est vraiment trop complexe avec, pour y aller avec des gamins.
Ouais, avec quelqu'un de curieux. Et pourquoi pas un rendez-vous, un date ?
C'est comme ça,
tu peux discuter de tout ce que tu vois.
C'est ça, c'est un peu plus original. Ça vous fera de la matière ensuite pour le verre que vous irez boire juste à la fin, à la sortie du musée.
Exactement.
C'est une bonne idée.
Ouais, faut pas y aller avec les potes, vous serez trop dissipés, faut être concentré.
Oui, expo. C'est vrai.
Alors par contre, moi je vais faire un petit... Pas un coup de gueule, mais...
On dénonce.
Donc cette expo, elle a été réalisée par l'Université de Los Angeles et le Fowler Museum de Los Angeles aussi.
Oui, c'est ça.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle une exposition clé en main.
Parce que vous avez certaines expositions qui sont le fruit d'une collaboration entre plusieurs musées, mais là, en revanche, c'est vraiment seulement le Fowler Museum qui a fait cette exposition.
Et qui ensuite la vend à d'autres musées.
Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que le résultat des courses... vous n'avez que 5 œuvres sur 225, on allait compter, 5 œuvres qui viennent du Quai Branly. Alors qu'une exposition, c'est aussi mieux, / c'est censé être comme ça, c'est censé être l'occasion pour un musée d'explorer ses collections, d'étudier ses collections et de montrer ensuite ses découvertes au public.
Oui, et c'est vrai que là, du coup, ça pose un peu la question de... est-ce que l'expo, c'est pas finalement aussi un truc simplement lucratif, quoi ?
Une sorte de
retour sur
spectacle qui fait sa tournée. Et...
Oui, c'est ça. Et puis un peu retour sur investissement. Quoi. J'ai payé tant pour avoir cette expo. Et du coup, je pense que ça va attirer du monde. Moi, je n'avais pas assez d'objets pour le faire moi. Mais je pense que c'est un sujet qui attire du monde. Du coup, j'espère que ça va faire des entrées. Quoi.
Bon, au résultat, on a une belle exposition. Mais la question est posée. Cet épisode touche à sa fin.
Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram...
Écoutez-nous sur Spotify, Podbean, iTunes et toutes les bonnes applis de podcast.
Et puis, on vous dit à bientôt.
À bientôt, Vicky.
C'était Gabriel.